Parole d'auteur. Parole d'auteur. Christophe Hyde.
Quoi de plus évident qu'un livre qui s'ouvre sur un préambule ? Comme pour donner des repères au lecteur, le prendre par la main, l'accompagner pour poser une ambiance. En ouvrant le livre de notre invité d'aujourd'hui, nous découvrons, à la lecture de ce premier chapitre intitulé « Préambule », qu'il n'est pas question de propos liminaires ou d'introduction savante. Nous sommes d'emblée projetés dans une fiction. Une troupe bigarrée et joyeuse prend place sur une scène derrière un rideau. Certains, dissipés dans leurs costumes chamarrés, chicanent les autres, excités à l'idée des trois coups. Les autres, angoissés, demandent le silence et la concentration. Le froissement des étoffes soyeuses se mêle au chuchotement d'une troupe de théâtre ou de music hall, grisée par une mise en place, alors qu'on imagine dans la salle un public impatient. J'ai vu dans ce premier chapitre une métaphore de votre livre, Daniel Marc.
Ah oui.
Comme si chaque personnage de cette scène inaugurale représentait un texte de votre recueil qui en compte plus de 30. Dans ces textes, si divers dans leur forme et leur sujet, on rencontre des acteurs, des danseurs, des musiciens, un chat plutôt snob, des personnages mythiques dans des situations cocasses et tragiques. On voyage de l'ici à l'ailleurs, parfois l'instant se dilate en un kaléidoscope de sensations, d'autres fois on voyage à travers les époques. Vous l'aurez deviné, le livre de notre invité n'est pas une saga en 3 tomes, mais un recueil de textes courts sur lequel nous lèverons le rideau pour vous donner envie de les lire. Daniel Marc, bonjour.
Bonjour.
Alors nous sommes ravis de vous accueillir, les studios de Radio Présence ne vous sont pas inconnus, vous aviez été invité par Monique Fauché pour Parole de lecteur autour d'un livre
de Modiano.
De Patrick Modiano. Monique Fauché, grande voix de notre station que les auditeurs apprécient par son éloquence et son érudition. Moi je suis fier et honoré qu'elle me permette à mon tour de rencontrer des auteurs dont vous êtes et de faire vivre le goût des livres. Nous lui transmettons d'ailleurs nos amicales pensées.
Oui, amicales pensées à Monique, oui.
Nous vous accueillons aujourd'hui pour parler de votre livre « Pastel, bleu nuit et autres mélanges » paru chez Hazard Atelier Édition. Je suis donc allé sur le site de votre éditeur et j'ai trouvé cette note de votre main. Ah, je vous cite. « Fasciné par les textes courts, les formes brèves du type récit, conte, nouvelle, je me suis lancé à mon tour dans cette aventure d'écriture. » Alors bien sûr, je ne vous demanderai pas combien faut-il de pages, de lignes, ou même de caractères comme dans un tweet.
C'est du court.
Voilà, pour considérer qu'un texte soit court, ce serait un petit peu risible. Mais vous, quelle est votre définition au fond du texte court ?
Alors, texte court, c'est une forme, en fait. Hein, une forme de narration. Il y a un roman, récit, etc. C'est nouvelle. Nouvelles courtes, short story, disent les Anglais. Short story. Enfin, nous, nous n'avons que nouvelles. Hein. Et texte court. Bon. Le bref, en fait, c'est le bref. Et donc, le bref, c'est un aspect essentiel. On ne peut pas le définir, c'est tellement varié. On ne peut pas donner une définition, ça serait trop étroit et trop réducteur. En fait, ce sont des textes qui pointe quelques caractéristiques comme évidemment la brièveté et surtout l'effet de condensation, et de suggestion. Et d'autre part, la caractéristique, c'est que un texte court ne peut pas voyager seul. Il voyage en groupe, comme c'est le cas dans un recueil, évidemment. Et donc, on ne peut que regrouper plusieurs textes pour en faire un recueil.
Mais quelle est la force de la nouvelle, du conte, de la fable, de ces recueils par rapport au roman ? En tout cas, qu'est-ce qui en fait
C'est la rapidité.
La rapidité
d'exécution, la rapidité. Le lecteur est pris et rapidement, il arrive. Alors que dans le roman, il s'étale dans le temps et dans l'espace. Et là, il n'a pas le temps de s'étaler, le lecteur.
Là, c'est, oui, alors ça a un intérêt pour le lecteur. Le lecteur, il peut prendre ce recueil, le mettre dans sa poche,
absolument,
aller dans le tramway,
l'ouvrir,
débuter
n'importe
sa
quelle
lecture,
page, oui.
Et être
oui.
certain que en 10 minutes ou un quart d'heure, il ira jusqu'au bout de cette aventure.
Oui. Il y a des défenseurs du cours. Hein. Je suis tombé sur une citation de Pascal, par exemple, qu'on n'attendait pas dans ce sujet. Je n'ai fait cette lettre si plus longue que parce que je n'ai pas eu le loisir de la faire plus courte. Le court eût été préférable, le court aurait été beaucoup plus rapide et beaucoup plus incisif, mais j'ai fait un peu trop long. Mais bon, excusez-moi, j'ai fait trop long.
D'accord.
Une deuxième citation, si vous me permettez, c'est Baudelaire. Dans l'espérance que quelques-uns de ces tronçons seront assez vivants pour vous plaire, j'ose vous dédier le serpent tout entier. C'est la présentation des poèmes en prose.
Hein. Bien sûr.
S'il y a des tronçons qui vous plaisent, allez, prenez tout.
Mais alors pour l'auteur que vous êtes, la gageure, c'est quand même de rechercher de grands effets pour le lecteur, en tout cas lui transmettre une émotion, avec une économie de mots.
Une économie de moyens, oui. C'est ça.
Et quelquefois, c'est concentré, c'est resserré, mais parfois, on n'a pas l'impression d'avoir peur d'étouffer le lecteur, en tout cas qu'il n'arrive pas à accrocher. Quelle est la bonne distance au fond?
Ah, c'est difficile.
Ah ouais.
C'est très difficile à savoir à l'avance. Oui.
Est-ce que vous faites des textes longs que vous allez raccourcir?
Non, généralement, je fais des textes courts.
Est-ce que tout arrive d'un jet?
Non, d'un jet, non.
Non,
non, non, ça se travaille. Ça se travaille, ça se retravaille, ça s'affine. Ah. C'est le cas de le dire. Mais non, d'un seul coup, non, d'un seul trait, ça n'arrive pas, non.
D'accord. Oui. Et quel est le moment déclencheur? Quel est l'instant qui vous saisit, qui peut vous, à quel moment vous avez l'impression que là, quelque chose vient, il faut prendre une feuille, il faut prendre un crayon, il faut ouvrir un dossier dans un ordinateur et écrire quelque chose?
Oui, c'est des thèmes, évidemment, les thèmes que chacun, comme chacun de nous, des thèmes favoris. On a chacun ses thèmes, ses obsessions, ses manies, et donc c'est ça qui vient en premier, bien sûr. Oui.
Très bien.
Oui.
Alors, pour entrer dans le vif du sujet et donner un aperçu à nos auditeurs, si vous le permettez, j'aimerais lire un extrait de votre livre.
Bien entendu.
Mon chat s'appelle Pablo. Oui, tout simplement, comme un vrai madrilène, un spécialiste des nuits. N'allez pas imaginer qu'il fréquente les bars et les ruelles chaudes, non, il ne se prend pas pour Hemingway. Son domaine à lui, le nyctalope avisé, c'est plutôt les jardins publics, les parcs, les lieux où, dans le charme envoûtant des nuits d'été, les rencontres avec les femelles du quartier enchantent l'existence. Il n'appartient pas à cette race de chats de canapé vautrés toute la journée dans les coussins du salon et qui n'hésitent pas à refaire une sieste nocturne après s'être gorgés de croquettes à la crevette. Non, mon chat, lui, il est toujours au charbon, heureux d'éprouver sa vitalité et son indépendance. C'est à peine s'il fait la sieste l'après-midi, il a une résistance à toute épreuve. Parfois, il se pose dans la journée, assis sur son arrière-train, l'œil mi-clos, comme si autour de lui le monde vaquait à des occupations insignifiantes qu'il observe malgré tout d'un œil distant. C'est un grand moment, c'est son grand moment philosophique, le moment où sa pensée se déploie. Il a l'air d'être au-dessus du sol, au-dessus de ses basses contingences. Dans ces moments, je l'appelle Adorno ou encore Wittgenstein. Il aime les noms compliqués et me répond par un clignement d'œil. Sacré Pablo, quel intello! Alors évidemment, oui. Votre chat, c'est pas le chat de Gueluc. C'est pas ce chat pâteau avec son humour belge. Je le placerai plutôt dans la catégorie du chat de Lewis Carroll dans
oui,
les aventures.
Oui, plutôt dans cette, voilà, dans cet esprit. Oui.
Mais bon,
oui.
Il a oui. ce côté hispanique.
Oui.
Un peu fier. Alors là, vous nous décrivez un instant, vous saisissez l'instant. Oui. Est-ce que le fait d'être auteur de textes courts, c'est au fond saisir l'instant?
C'est ça, oui, l'instant, il faut que ça s'arrête rapidement, il faut que ça commence, il faut que ce soit, que ça se mette en place rapidement et que ça s'arrête sans que ce soit frustrant, ni pour celui qui écrit, ni pour celui qui lit.
Oui. Est-ce que vous parleriez d'un jaillissement, d'une inspiration, d'un saisissement ou... Ça, c'est un peu une représentation...
Un peu romantique.
Romantique,
oui.
De l'inspiration.
Non, il y a beaucoup de travail, hein, vous savez.
Il y a beaucoup de travail.
Ça coule pas d'un seul jet.
Ça coule pas d'un seul jet.
Oui, il y a une partie qui est là, mais cette partie-là, il faut l'allonger, l'étoffer, lui donner une forme, lui donner une consistance. Et ça... Ça ne se fait pas de manière immédiate, oui.
Donc parfois, il existe des difficultés techniques. Hein. Il y a de nombreux auteurs qui parlent d'un travail de modelage, de polissage. Hein. Je ne parlerai pas d'artisanat, mais presque.
Oui, il y a de ça aussi, bien sûr, oui. Bien sûr.
Et alors, dans les textes courts, évidemment, il faut tout de suite saisir l'instant, saisir aussi le lecteur. Et donc, comme dans une lettre d'amour ou comme dans une oraison funèbre, il faut que dès la première phrase...
Que ça accroche.
Faut que ça accroche.
Faut que ça accroche, oui.
Et alors, comment faites-vous?
Ah ben, ça, c'est, je fais pas, je fais.
Ouais.
Je me dis, bon, ben, est-ce que ça va accrocher ou, ou non? Je peux pas le savoir à l'avance, mais à mon goût, à moi, oui, ça accroche. À mon sens, à moi, mais...
Entendu.
On ne peut le savoir exactement que par l'expérience du lectorat, c'est sûr. Et des réactions des lecteurs, quoi.
Et dans ce texte court, il y a à la fois donc, l'entame, l'entrée, et puis il y a aussi la fin. J'ai noté dans beaucoup de vos textes comme un retournement, comme souvent ça finit par un paradoxe, par un pied de nez, une pirouette.
Une pirouette, une chute, oui.
Voilà.
Une chute, il faut une chute, sinon le lecteur s'ennuie.
Et parmi vos textes, est-ce que, d'abord, est-ce que vous avez un ou une lectrice qui puisse un peu...
de servir de cobaye.
Voilà, critiquer, ou qui puisse éventuellement faire changer un peu le cours du récit.
Non.
Non.
Non, pas vraiment, non.
Alors, on parlait avant, pour préparer cette émission, de votre arrivée, je dirais, à l'écriture.
Oui. Hein.
Je ne trahis pas un secret en disant que vous êtes professeur de lettres.
Un ancien prof de lettres,
voilà.
Oui, d'accord.
Et donc, ça dit quand même pour votre goût et votre plaisir.
Oui, la fréquentation des textes littéraires et des œuvres littéraires, bien entendu, est une affaire professionnelle de tous les jours.
Alors, ça vous donne peut-être, enfin, ça vous a donné peut-être l'envie d'écrire et vous aviez des fourmis dans les doigts, ou bien parfois il y avait un caractère inhibant en se disant, bon...
Ouais, ça peut être inhibant d'avoir de si beaux textes dans les mains.
Alors comment?
Avec des auteurs si hauts dans l'empiré. Ben oui,
il se trouve que j'ai quand même un livre entre les mains.
Oui.
C'est le vôtre.
Il arrive un moment où on passe la frontière, oui.
Ouais.
Oui, oui. Alors de ce point de vue, la pratique des ateliers d'écriture a été un déclencheur qui a permis de franchir l'obstacle, oui. Oui.
Alors pour moi, personnellement, je n'ai jamais participé à un atelier d'écriture. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont ces modalités?
Alors nous avons un atelier d'écriture qui s'appelle Équipage, qui est animé par ma femme, Martine, et dans lequel nous sommes une dizaine. Nous nous retrouvons pour écrire avec plaisir tous les 15 jours d'octobre à juin. Et donc le travail consiste à partir d'un déclencheur, qu'il soit visuel, musical ou textuel, de se lancer sur une piste d'écriture. Ensuite, on échange, on se lit nos textes et on se fait des remarques critiques, au sens positif du terme, bien sûr. Et donc, dans une séance, on écrit deux ou trois textes.
D'accord.
Qui sont relativement courts. Et donc, après, chacun retravaille à sa manière, amplifie, déforme, reforme, etc.
J'imagine que tout ça est fait dans la bienveillance, parce que c'est quand même une école d'humilité.
Oui, bien sûr, ouais. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui.
Est-ce
oui.
que ça apprend à, par exemple, à se relire?
Ah, bien que... non, évidemment, évidemment. On sent l'obligation de se relire.
Ouais.
On n'est jamais content du premier jet. Ouais. Le premier jet, bon, c'est pas mal, mais il manque toujours quelque chose. Puis comme c'est en temps limité, forcément.
Et depuis quand pratiquez-vous?
Oh, ça fait un certain temps qu'on pratique. Oui. Déjà, bon, c'était un travail scolaire. Dans des années bien antérieures, on pratiquait ce qu'on appelait des textes libres. C'est-à-dire qu'on ne donnait pas de consignes, ce qui est le plus difficile d'ailleurs. Puis petit à petit, on a compris qu'il fallait donner des consignes. Et ensuite, on a eu la mode des creative workshops à l'américaine, mais qui, eux, ont une visée professionnelle, on forme des écrivains.
D'ailleurs, j'ai appris que l'université de Toulouse avait un master, je crois,
un diplôme universitaire.
Ouais.
Oui, certaines. Aujourd'hui, oui, depuis quelques années d'ailleurs, oui, depuis une dizaine d'années, il y a des diplômes universitaires dans les ateliers d'écriture. Mais ils forment des animateurs.
Il y a quelques temps, j'avais rencontré un auteur qui me disait « Si j'avais à 20 ans ou 25 ou 30 ans participé à cet atelier d'écriture, j'aurais gagné du temps d'une certaine manière. »
Oui.
Vous voyez les choses?
Je ne sais pas, c'est difficile à dire, hein, ouais. C'est subjectif. Hein, oui. Je ne sais pas.
Alors pour revenir au thème de votre livre, on a évoqué ce chat Pablo. Hein,
oui.
Je vous avais dit qu'il était nyctalope. Ça veut dire donc qu'il a une vie nocturne bien remplie.
Comme tous les chats.
Voilà. Et donc je voudrais savoir si vous-même vous écrivez la nuit. Enfin, quand écrivez-vous?
Non, pas du tout.
Est-ce que
non.
Vous êtes parfois...
Non, je ne suis pas nyctalope, je travaille le jour.
Parce que la nuit est quand même une thématique assez présente dans votre
oui,
livre. Du reste,
si
je lis le titre, oui. Il y a bien Bleu Nuit,
Bleu nuit oui.
dans le oui, texte. Oui. Il y a Ronde de Nuit,
oui.
ce texte où
c'est vrai. Oui, le
qui parle
de l'endormissement. Oui, le thème de la nuit est un thème très fréquent dans la littérature et dans la poésie, bien sûr.
Et pourquoi vous inspire-t-elle
aussi? Là, c'est parti d'un tableau, c'était la Ronde de Nuit de Rembrandt, mais le texte n'a rien à voir avec la Ronde de Nuit de Rembrandt, qui est une ronde de gens qui surveillent la population. Hein. C'est une sorte de milice.
D'accord.
D'ailleurs, c'est un tableau absolument énorme, gigantesque, qui a été mutilé plusieurs fois, j'ai vu il n'y a pas longtemps, et qui a été recomposé, mais il fait les trois faces du musée à Amsterdam. Et c'est immense.
D'accord. J'avais une autre question à vous poser. Dans les interviews d'auteurs, souvent, certains parlent de la résolution de nœuds psychologiques par l'écriture.
Oui, je m'aventure pas.
Voilà. Citation pour citation, vous me faisiez des citations tout à l'heure. Fernando Pessoa disait que dans le livre de l'intranquillité, là, oui. La littérature, en fait, c'est le long chemin vers soi,
oui.
Vers la connaissance de soi, comme une maïeutique. Enfin.
Oui, 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 oui.
Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça vous fait du bien? J'imagine que si vous retournez
bien, oui,
tous les 15 jours sur les
ça fait du bien d'écrire, c'est sûr, oui, ouais. Ça fait du bien d'écrire, ça fait du bien de réaliser quelque chose qu'on termine et qui prend la forme d'un livre, oui. Alors qu'il s'agit d'un bouquet un peu informel, mais ça prend la forme d'un livre, oui. Oui, oui.
Alors on a parlé des textes courts, parmi les écrivains de textes courts qui vous ont particulièrement influencé, ou qui vous ont particulièrement marqué, quels sont-ils?
Oui, alors j'ai parlé souvent de Cortázar. Hein. Cortázar, je trouve que c'est un des grands écrivains latino-américains argentins, et qui a une œuvre très, très importante, et une écriture originale et inventive, avec beaucoup d'humour. Il a été traducteur lui-même de l'espagnol et de l'anglais. Et en fait, il est devenu français, n'est-ce pas, même avec l'arrivée de Mitterrand en 81. Il était naturalisé français. Donc c'est un franco-argentin ou un argentino-français qui est très proche de Borges et qui a une tournure d'esprit dans cet univers latino-américain qui est devenu à la mode, enfin qui a été révélé plutôt et beaucoup plus connu dans les années 80. 90.
Oui. Du reste, vous m'en parlez, dans les années 90, j'ai regardé un peu sur Internet, parce que pour faire un aveu, je n'avais jamais lu Julio Cortázar. Je dois bien en faire l'aveu, mais j'ai rattrapé ce retard grâce à vous, pour tout dire.
Hein,
notamment, vous marquez dans un de vos textes Hommage à Cortázar et un sous-titre Chronop.
Oui, un gros clin d'œil. Oui.
Chronop est fameux.
Chronop est fameux.
Est fameux,
oui.
Qui est un de ses textes traduits,
oui. Oui.
Traduits en français.
Oui.
Et dans ma recherche sur Internet, en fait, je suis tombé sur une des émissions qui a fait les grandes heures de la télévision française dans les années 90 en matière de littérature. Avec Bernard Rapp, qui faisait un siècle d'écrivains. Je ne sais pas si vous connaissez cette série.
Oui, bien sûr.
Qui est tout à fait connue. Et justement, il y a un numéro sur Cortázar là, qui est tout à fait intéressant.
Mmh,
et Cortázar dit dans cette... Il dit que le fantastique, puisqu'il se considère un peu comme un auteur fantastique, n'est pas le contraire du réel ou du vrai, mais une de ses modalités qu'on fond... Quand on est Chronop et pas fameux, eh bien...
On nage dans le fantastique en permanence.
Il ne suffit que de s'ouvrir à ces arrière-mondes.
C'est ça. Le réel est fantastique tous les jours.
Vous considérez comme un Chronop?
Non, pas franchement, mais je n'ai pas le talent de Cortázar non plus. Hein.
Bien. Écoutez, avant de nous entretenir plus précisément de vos sources d'inspiration et de vos thèmes de prédilection, nous allons marquer une pause musicale.
D'accord.
Dans un de vos textes, vous avez cité Le tourbillon de la vie.
Oui.
Chanson de Jeanne Moreau.
Razvani.
Voilà.
Razvani a 92 ans. J'ai récemment entendu à la radio. Il est stupéfiant de verdeur, si j'ose dire.
Ah oui.
Ah oui. Ah oui.
Ah oui. Et donc moi, ça m'a fait penser à une autre des chansons de cette même interprète et de cet auteur
qu'on
nous allons écouter.
J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien Comme il était très musicien, il jouait beaucoup des mains. Tout entre nous a commencé par un très long baiser. Sur la veine bleutée du poignet, un long baiser sans fin. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Quel pouvait être son prénom et quel était son nom? Il s'appelait, je l'appelais, comment l'appelait-on? Pourtant c'est fou ce que je m'aimais l'appeler par son nom. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux? Je crois pas qu'ils étaient bleus. Était-il vert? Était-il gris? Était-il vert de gris? Ou changeait-il tout le temps de couleur pour un non pour un oui? J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Habitait-il ce vieil hôtel bourré de musiciens? Pendant qu'il m'aime, pendant que je, pendant qu'on faisait la fête, tous ses saxos, ses clarinettes, il me tournait la tête. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Lequel de nous deux s'est lassé de l'autre le premier? Était-ce moi, était-ce lui, était-ce donc moi ou lui? Tout ce que je sais, c'est que depuis, je ne sais plus qui je suis. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà qu'après toutes ces nuits blanches, il ne me reste plus rien. Rien qu'un petit air qui s'y flottait, chaque jour en se rasant. Pas de du 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 da du da du 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 du
Parole d'auteur. Christophe Hyde.
C'était Jeanne Moreau qui chantait une chanson de Serge Rezvani, J'ai la mémoire qui flanche. Rezvani, comme vous le disiez, musicien, écrivain et peintre, qui par un coup du sort perdra sa muse, la femme de sa vie, Lula, d'une maladie d'Alzheimer. Il en avait fait un récit très poignant qu'il avait publié au début des années 2000, qui s'intitulait « L'éclipse ». Oui, mais vous, Daniel Marc, votre mémoire, elle, est intègre, elle est vive.
Dieu merci pour l'instant.
Et dans votre recueil, « Pastel, bleu nuit et autres mélanges », elle est un outil précieux, parce qu'on sent qu'il y a certains textes qui sont très autobiographiques, et puis d'autres renvoient à des choses vues, on en a déjà parlé. Il y a certains textes de votre recueil qui dialogue aussi avec la mémoire collective, avec des époques plus lointaines. Et j'aimerais vous interroger, par exemple, dans votre évocation de la Grande Guerre. Mmh. Vous parlez de l'hiver 1916. Comment arrive-t-on, à son cabinet de travail à Toulouse au XXIe siècle, sur ce retour tragique sur un lieu de désolation et de mort? Comment vous est venu
C'est un thème qui est très fréquent partout, y compris aujourd'hui, hein, la guerre de 14. Et de manière personnelle, il y avait chez ma grand-mère maternelle, dans l'Ariège, la photo de deux de ses frères qui sont morts à la guerre de 14, un en 15, l'autre en 16. Et l'un est mort dans un village qui s'appelle Perthes-les-Hurlu. Déjà le nom du village, village complètement rasé. Hein. J'ai cherché, je me demandais ce que c'était, où c'était. C'est évidemment dans la partie nord-est de la France.
Dans la Marne.
Marne, très exactement, oui. Et donc, voilà, ces grands-oncles que je n'ai pas connus, sont quand même des figures qui sont émouvantes. Des garçons de 22, 23 ans, 24 ans, qui ont été la chair à canon de la guerre de 14. Tous les villages de France... Le monument aux morts de la guerre de 14, on sait ce que c'est. C'est une liste très grande de noms, comparativement à la population, bien sûr.
C'est vrai que de 2014 à 2018, il y a eu cette commémoration du centenaire de la guerre de 14, et chaque famille française a pu avoir accès par Internet. Par exemple, il y avait les journaux de marche des différents régiments. On pouvait suivre presque au jour le jour l'évocation. Et dans ma famille, j'ai appris moi aussi que quelqu'un était mort en 1916 à Verdun, Oui. Souverdin, comme on disait.
Mm-hmm. Oui, Souverdin. Oui,
voilà. Alors, vous évoquez la guerre de 14 et vous évoquez aussi, vous parlez du monument aux morts, vous oui. parlez d'un monument très particulier et atypique. Oui. J'aimerais vous écouter sur ce, à ce sujet.
Parce que oui,
ben, je l'ai découvert grâce à vous.
C'est une sculpture d'Antoine Bourdelle, monsieur. On n'entend pas ça partout. Les monuments aux morts sont en général des hommes dressés dans l'habit du soldat de la guerre de 14 avec sa capote presque jusqu'aux pieds, ou bien des groupes de soldats, ou bien des femmes implorant le départ du train, etc. Et là, c'est une reproduction, évidemment, de Bourdelle. Le cri, qui est deux têtes collées et une superposée, qui sont en train de hurler, c'est le hurlement devant le cri d'effroi devant les horreurs de la guerre.
Oui, j'ai vu que...
Et c'est dans un petit village de la vallée de Vic-de-Sault qui s'appelle Capoulet-Junec. On ne s'attend pas à avoir trouvé une œuvre de cette qualité. C'est quand même... une œuvre de Bourdelle. Il y a très beau, la même chose au musée Bourdelle à Paris, à Paris-Montparnasse. Très bien, d'ailleurs.
Et pour compléter cette histoire, j'ai lu aussi que le maire de Capoulet et Junac était l'ami de Bourdelle et qu'il avait demandé à sa veuve...
C'est ça. Il y a une relation, sinon Bourdelle ne va pas prêter sa sculpture. C'est une copie, mais quand même.
Oui, tout à fait.
Un original aurait été sans doute pas longtemps... ne serait pas resté longtemps.
Oui, ces trois têtes qui représentent la peur, la souffrance et la mort.
C'est ça.
C'est toute la tragédie... de la guerre, on est bien loin, voilà, de l'épopée lyrique.
Et c'est un monument aux morts original, de ce fait, avec ces trois têtes.
Alors,
le sculpteur de...
Vous parlez de ces trois têtes, de ce monument aux morts qui, dans un cri silencieux, nous font évoquer des horreurs. Et cette partie-là est insérée dans un récit intitulé Cesare Vanini.
Oui.
Au fond, et là aussi, en fait, ce cri, c'est aussi le cri de Cesare Vanini. Qui est-il, au fond? Parce que ce texte-là parle d'une déambulation à Toulouse,
oui.
nocturne,
oui.
de votre narrateur,
oui.
la nuit,
oui.
donc il ne dort pas si bien. Et là, il est pris par cette évocation de la douleur,
oui.
à travers l'histoire.
C'est ça, c'est le cri de Cesare Vanini qui a été, on lui a arraché la langue avant de le brûler, hein, sur la place du Salin à Toulouse.
Au XVIIIe siècle.
XVIIe, oui. Et donc c'est un des philosophes considérés comme réprouvé par l'Église à l'époque, bien sûr.
Oui. Donc le tragique de l'histoire comme source d'inspiration
n'a pas de siècle, oui.
Mais alors je ne voudrais pas que nos auditeurs pensent
D'ailleurs, aujourd'hui, n'est-ce pas, nous avons un tragique de l'histoire pas loin, près de nous, vers l'Est.
C'est bien sûr, oui. Bien sûr. Alors je ne voudrais pas que les auditeurs pensent que ce recueil de nouvelles ne contient que des choses horrifiques.
Ah non, bien sûr.
Mais pour en rester à l'histoire, vous évoquez aussi d'autres périodes plus lointaines encore que la guerre de 14 ou que même... le siècle de l'Inquisition, c'est la Grèce, l'Antiquité.
Oui.
Mais vous en faites, je dirais, une mythologie un peu fantaisiste. Excusez-moi
de vous le dire. Pas du tout.
Alors, je ne sais pas si vous êtes helléniste, c'est presque une transgression. mais voilà, vous parlez d'un Ulysse et du mythe de Sisyphe. Alors je vous laisse défendre ces deux cas. Alors, pour Ulysse...
Le premier Ulysse, il s'appelle Ulysse. Il se trouve que ce prénom est extrêmement connoté.
Mmh.
Et que dans un voyage qu'on fait en Grèce, on s'appelle Ulysse. Bon, mais c'est un Ulysse tout à fait normal, banal.
Oui, mais le titre de votre texte s'appelle Ulysse mené en bateau.
Mené en bateau, oui.
Déjà, on voit votre esprit facétieux.
C'est une croisière.
Donc trois amis ou quatre sur un bateau.
Oui.
Et que se passe-t-il?
Eh bien, il se passe un petit naufrage et Ulysse se trouve rescapé sur une île déserte. Mmh. Oui. Ce qui connote un autre type de littérature à la Robinsonade.
Exactement.
Oui.
Et donc, on part finalement d'une réalité bien moderne avec ce bateau qui part d'Héraclion vers les Cyclades.
Oui.
Et puis, on se retrouve un peu dans cet homme un peu désorienté, ce naufragé désorienté. Et là, on rentre en plein mythe. Et vous faites le chemin inverse avec Mythologos. Oui. Parce que Mythologos, quand on commence à lire ce texte, on se dit, tiens, voilà, on parle de la Grèce antique. Et puis, comment ça finit?
Eh bien, ça finit...
Coupé.
Sur la dune du Pilat. Ça termine sur la dune du Pilat.
Vous nous prenez à contre-pied.
Hein, Exactement.
C'est tout l'art, enfin, c'est tout votre art.
La tentative de renversement et de dépassement d'un texte initial qui, finalement, retombe là où on l'attendait pas. Enfin, j'espère qu'on l'attendait pas.
Non, c'est réussi. Alors, de l'histoire avec un grand H qui vous inspire, qui nourrit vos textes, mais le présent, le réel, on l'a dit, le quotidien, on l'a vu avec le chat aussi, qui sont des expériences de voyage, sont aussi des sources de certains de vos textes, et ils construisent un peu avec vous une géographie intérieure. Alors, il y a ce paysage avec vue, le texte de paysage avec vue, où vous dites, je vous écris de la maison, oui, ou heureux rêveur, heureux flâneur face à la chaîne des Pyrénées, je vous écris pour faire partager cette incomparable lumière, ce bleu métallique qui domine tout. Alors, je ne veux pas rentrer dans votre intimité, mais...
Oui.
Les Pyrénées.
Oui, les Pyrénées. Ma famille maternelle est originaire de l'Ariège, et donc je fréquente beaucoup cette région, la vallée de Vic-de-Sceaux en particulier.
C'est une source intarissable.
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 Intarissable, oui.
Alors, des couleurs du paysage à ceux d'un tableau, la peinture est aussi présente. On parlait de Rezvani, qui est à la fois auteur et peintre. Souvent, les choses vont ensemble. Et dans votre recueil, vous exposez un certain nombre d'impressions, notamment la descente de la Courtille, si je me trompe.
La descente de la Courtille, oui, voilà. C'est un tableau très connu au musée Carnavalet à Paris. Et c'est une manifestation populaire. Je ne savais pas, d'ailleurs, je l'ai découvert. En passant devant ce tableau, je suis allé chercher un peu plus loin. C'est une manifestation populaire très, très fréquente pendant tout le 19e siècle. Et qui, bien évidemment, s'est arrêtée par la suite. Mais c'était déjà... Ça partait des fortifications.
D'accord.
De Paris. Et donc, c'était un grand mouvement populaire vers le centre.
Vous parlez aussi...
Très festif et...
On part vraiment vers autre chose. Il y a aussi l'abstraction. Parce que j'ai vu le noir...
Oui.
Plus qu'une couleur. Alors, on est loin des camailleux gris des vitraux de l'abbaye de Conques. Là, c'est le noir.
Oui.
Vous produisez un texte. Alors, c'est quand même difficile. Comment parler avec des mots ?
C'est un kaléidoscope, ce texte. Hein. Ce serait, je ne sais pas, peut-être qu'une formule un peu musicale, jazzy, de jazz, pourrait correspondre à cette espèce de mélange des sensations et des couleurs.
Ouais, c'est bien.
Sur une base de noir, bien sûr.
Alors, quand même, je voudrais revenir sur votre texte « Tableau vivant ».
Oui.
Parce qu'il m'a interrogé. Je me suis dit, mais l'a-t-il fantasmé ? Rapporte-t-il une expérience personnelle ? Est-ce que vous voulez bien nous raconter Là, on est un peu dans les arts vivants.
Encore aujourd'hui. Ouais, hein. Ouais. Ça date de beaucoup, ça se faisait beaucoup au 18e.
Alors expliquez-nous.
C'est le fait de se déguiser dans la forme du tableau, dans des personnages tels qu'ils sont. Par exemple, l'Angélus de Millet, on peut très bien reproduire l'Angélus de Millet et voir les deux paysans au milieu de leur champ en train de se recueillir ou de faire autre chose, on peut déformer. J'ai vu une exposition photo dans laquelle les deux personnes de l'Angénus de Millet portaient des kalachnikovs, chacun. Si on est dans un champ irakien ou syrien, en train de cultiver son blé qui va permettre de se nourrir, il vaut mieux savoir le défendre.
En effet.
Mais bon, c'était cette connotation dans cet esprit. Et le tableau vivant, j'ai participé à une reconstitution de ce qui s'appelle le tableau de Velázquez, la reddition de Breda, mais c'était complètement évidemment, libre, ça n'avait parfaitement rien à voir avec la solennité de la chose. Le vaincu remet la clé de la ville, sur un coussin rutilant bien sûr, la clé de la ville au vainqueur, qui, lui, ne le regarde pas d'une façon méprisante. C'est entre hommes de ce niveau, bon, le vainqueur et le vaincu, c'est pas, il ne s'agit pas d'humilier, il s'agit d'avoir un échange d'homme à homme.
Quoi. Entendu. C'est une expérience, en tout cas.
Donc
que
on peut se jouer là-dessus et c'est très théâtral finalement. Hein.
C'est, ouais, c'est une expérience que vous
picturale et théâtrale
que vous ramenez, qui semble réjouissante parce que à
très
vous lire,
très réjouissant.
on a envie de participer.
C'est très réjouissant.
Moi, je peux vous le dire. Alors, évidemment, les arts entre eux se nourrissent entre eux et il y a aussi dans votre recueil de nouvelles des références à la musique.
Mmh.
Et notamment une référence musicale par deux fois dans le livre à une pièce de Modeste Moussorgski, le tableau d'une exposition.
Oui.
Alors, si vous voulez bien, est-ce que vous pourriez nous rappeler un peu les circonstances, les conditions de cette...
Oui, c'est une pièce qui date de 1874, hein, milieu 19e, les tableaux d'une exposition. Et c'est une pièce qui a été écrite en hommage à l'exposition d'un de ses amis qui s'appelait Hartmann. Et ce monsieur, pour lui faire plaisir, il a monté quatre parties de tableaux qui, évidemment, n'ont pas une relation extrêmement mécaniste avec les œuvres. Par exemple, il y en a un qui s'appelle Porte de Kiev. Ça nous parle aujourd'hui, mais la Porte de Kiev, c'est un monument de la Russie de l'époque, bien sûr, et qui est absolument splendide et duquel il fait une évocation, mais ce n'est pas une évocation au sens très, très proche de l'objet, c'est une évocation tout à fait abstraite, bien entendu.
D'accord.
Ce n'est pas de l'imitation.
On parle aussi de ce tableau d'une exposition au détour d'un texte qui s'appelle Pinus Rabastinus.
Ah oui.
Et vous évoquez la forme, donc c'était des compositions initiales Moussorgski de piano, et puis ça a été
orchestré
par Ravel.
Oui. Oui.
Et au cours de ce texte, de ce court texte, vous dites, mais Ravel voulait y mettre le bruit du vent.
Oui.
Dans les pins. Alors je me suis dit, mais encore une fois, est-ce qu'il ment vrai? Est-ce que, comme disait Henri
Michaud,
comme disait Henri Michaud, voilà, je suis un mensonge qui dit toujours la vérité,
oui.
Ou est-ce que, au fond, est-ce que c'est pure invention?
Ravel, c'est une pure invention, mais c'est il a vraiment orchestré.
Oui, bien sûr, oui.
Oui. Évidemment, moi, je préfère la version piano qui dure très longtemps, que j'ai eu l'occasion d'entendre en entier, c'est vraiment superbe, magnifique.
Et puisqu'on parle de piano,
oui.
Et puisqu'on parle de Moussorgski, il y a aussi cette nouvelle qui s'appelle Mikhaïl.
Mikhaïl.
Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler?
Mikhaïl,
c'est Mikhaïl Roudy, un pianiste,
oui.
D'origine
russe,
né à Tashkent.
Oui, oui.
Là, vous en faites le récit, je pense, de son adolescence, et il est un peu remis dans...
Une évocation de sa...
Presque une punition.
Il est puni, parce qu'il se dépêche d'émigrer, parce qu'il est pris un étau dans l'époque stalinienne. Il n'est pas conforme.
Ah, très bien.
Ah oui, il n'est pas du tout conforme. Donc, à la première occasion, il se sauve et il ne revient pas.
D'accord.
Comme on a eu des quantités de gens qui l'ont fait, et il y en a encore récemment, on nous dit même que certains parmi les oligarques russes sont partis depuis longtemps dès qu'ils ont vu le vent tourner.
Ah oui, bien sûr.
Au début de la guerre d'Ukraine, oui. Oui, oui, c'est un personnage très intéressant. Il est devenu français d'ailleurs, hein, si je ne me trompe, Mikhaïl Roudy.
On parlait de la musique. J'ai noté que beaucoup de vos textes sont ponctués d'indications de tempo. Vous parliez tout à l'heure du rythme.
Oui.
Allegro.
Oui.
Vivace andante. Dans un récit, aussi court soit-il, il faut du rythme, en fait.
C'est ça.
C'est important.
C'est ça. Oui, oui, le rythme. C'est pas facile à... J'essaye. C'est pas facile à attraper, de garder un bon rythme et de faire bien ressentir le rythme.
Alors, puisqu'on parle de musique, eh bien, on arrive à la deuxième, au deuxième extrait musical, pardon. Et cette illustration, je vous l'ai demandé, et vous m'avez demandé de passer un titre de tango. Alors, il s'agit de la...
La comparsita.
J'ai peur de mal prononcer, exactement. Chantée par Haydé Alba.
Haydé Alba.
Parole d'auteur. Christophe Hyde.
Nous écoutions la Comparsita par Haydé Alba, choix de notre invité Daniel Marc, auteur d'un recueil de textes courts publié chez AZ Art Atelier Édition. Comparsita, moi je ne suis pas hispanophone, petite parade de rue.
C'est ça.
Pourquoi ce choix musical ?
Bah, puisque vous m'avez parlé du thème du tango, qui bien entendu est présent, c'est un des morceaux emblématiques des salles où on danse le tango. Il sert d'ouverture et de fermeture. Quand on entend la comparsita à 2h du matin, ça veut dire que c'est fini. C'est la dernière. Oui.
Alors, pour poursuivre notre dialogue, donc en effet, je souhaitais parler du tango de Buenos Aires, qui apparaît souvent dans vos textes. Notamment dans un texte intitulé « L'archange », où vous posez des hypothèses en observant un tableau c'est un tango de l'archange de Kees van Dongen. Vous en faites trois hypothèses. Images publicitaires pour agence de voyage de noces, rideau de scène de l'Athénéo de Buenos Aires et enfin une allégorie. Est-ce que pour vous, ce tableau représente la quintessence de cette danse ?
Non, la quintessence de la danse, non, mais une des approches, il y en a tellement, une des approches possibles, et celle-ci est très datée et très originale. C'est le personnage qui danse avec cette femme nue, on a rarement ça dans les classiques de la représentation du tango.
Alors moi qui ne connais pas le tango, qui suis novice, ou plutôt qui ai marché un nombre incalculable de fois sur les pieds de mes
cavalières.
C'est
pas bien.
Voilà. J'apprends à votre lecture que le tango, que je pensais être une danse du XXe siècle, en fait, a un passé très ancien.
Oui.
Et une danse subversive qui a même été interdite.
Oui, bien sûr. Oui. Enfin,
interdite.
Le texte Tango Tanger, oui. C'est un docu-fiction.
D'accord.
C'est pas un docu.
Encore une fois, je me suis fait avoir. Néanmoins, mais moi, je vous crois. Moi, je suis un lecteur.
Mais c'est bien aussi. Néanmoins, le tango a une histoire très controversée, bien sûr. Et il y a une relation très étroite entre l'Argentine et la France. En fait, le tango qui a commencé en Argentine, c'est un tango entre hommes. Ils n'ont pas de femmes, ces immigrants. Ils sont dans des conventillos, ce sont des sortes de cours carrés de HLM dans lesquels ils s'entassent plus ou moins bien. Ils viennent de tous les pays du monde. Les Péruviens descendent des Incas, les Mexicains des Aztèques, et les Argentins descendent des bateaux. C'est eux qui le disent eux-mêmes. Je n'aurais fait que répéter quelque chose qu'on entend partout. Et donc, ils ont commencé comme ça, entre eux, et puis évidemment, et pour avoir une femme pour danser avec, il fallait la trouver et la payer. Et donc, cette danse, pour des raisons de lien entre la France et l'Europe, a émigré en France tout de suite, a été acceptée en France après les années 20, entre deux guerres. Est devenue une danse basique, un peu répandue un peu partout. Et donc, elle est repartie à nouveau en Argentine, puisqu'elle était reconnue en Europe, les Argentins, alors qu'elle était un peu mal vue, très mal vue, les Argentins l'ont reprise et l'ont développée. Et puis, est arrivé Carlos Gardel, bien entendu.
Alors, parlez-nous-en.
Qui, lui, a...
Un peu toulousain.
Oui, notre cher Toulousain, n'est-ce pas? Carlos Gardel, c'est le tango chanté. Et c'est à partir de... Parce qu'avant, c'est pas forcément chanté. Le tango chanté, par Carlos Gardel, a fait la renommée internationale. Et puis sa mort tragique par accident d'avion, évidemment, encore plus amplifiée. On entend parfois dire que c'est Carlos Gardel qui a inventé le tango. Non, le tango existait avant lui. Lui, il a amplifié, par le chant, la renommée du tango. Alors, à Toulouse, il y a un parcours qui retrace Carlos Gardel, etc., fait par une personne qui s'appelle Solange Basely. Le tango et Gardel, ça pourrait être l'objet d'une émission.
Avec grand plaisir.
Eh bien, à ce moment-là, il faudrait faire intervenir Solange Basely, qui est très bien spécialisée dans ce domaine.
Oui. Parce que dans votre livre, vous nous dites, c'est d'une certaine manière, il y a une esthétique du tango.
Ah oui, bien sûr, oui. Oui,
c'est un type d'homme, une type de femme, c'est-à-dire le costard rayé, les cheveux gominés.
Alors ça, c'est le stéréotype.
Oui, le stéréotype. Et on parlait de Julio Cortázar.
Oui.
Quand on évoquait le tango, il dit, mais c'est comme la Java à Paris, c'est-à-dire il y a un côté canaille.
Il y a un côté. Alors, il y a encore, mais c'est devenu aussi, c'est extrêmement strict, le tango.
C'est formalisé.
Très formalisé. C'est de plus en plus formalisé, d'ailleurs. Bien des gens de la danse classique sont venus au tango et ils ont rajouté des formes, des manières, des figures qui se complexifient de plus en plus au fur et à mesure. Donc il y a des gens qui sont des danseurs de très, très haut niveau qui sont venus au tango parce que c'était dans une bonne vague et ils se sont mis dedans. Alors les vagues se succèdent les unes après les autres, comme partout, comme les modes, quoi. Mais en ce moment, la vague existe toujours. À Toulouse, il y a un festival début juillet qui dure une bonne dizaine de jours et qui est à l'extérieur et qui est très bien.
Vous-même, en dehors des ateliers d'écriture, vous êtes un praticien du tango.
Oui.
entendu.
Bon, alors, les pandémies ont mis un bémol, évidemment, pour tout le monde, mais bon, ça reprend, ça a repris déjà.
Écoutez, je pense qu'il faudra absolument que vous reveniez nous parler du tango.
Avec Solange Vasely, oui.
Avec, voilà, oui, oui. Parce que vous avez tant de choses à nous dire.
Ah ben, c'est sûr, oui.
Voilà, j'en arrive à la conclusion. J'aurais une question quand même, avant de conclure. C'est si vous deviez choisir parmi les 30 textes de ce recueil, lequel retiendriez-vous comme votre préféré?
Alors ça, c'est une c'est question extrêmement difficile.
Voilà. On ne peut pas choisir entre ses enfants.
Oui, c'est ça. C'est ça. Choisir, ça voudrait dire à renier d'autres. C'est une question très difficile, oui. Non, je pense que je préfère laisser le choix au lecteur qui me dise « Ah ben oui, moi j'ai préféré celui-là. Ou... »
Ah ben, si je dois vous donner mon goût, j'ai beaucoup aimé la filature discrète. Cette narratrice, espionne et détective dans sa...
Alors, ce texte nous a été, en fait, initié, l'idée nous a été initiée par Monique Fauché, puisqu'elle avait à côté de chez elle une personne qui était dans une petite voiture et qui passait ses journées entières à observer le quartier.
Oui.
Alors, pour des raisons que, évidemment, indécidables, pour des raisons difficiles à comprendre, mais on a tous été intrigués. Elle nous a donné cette anecdote et on s'est mis à chacun à imaginer quelque chose autour. Et puis, bon, après, peaufiner, et voilà, ça a donné ça.
Mais écoutez, c'est une très belle conclusion revenir à Monique
Fauché. Oui, ça nous ramène à Monique.
Voilà.
Oui.
Donc, j'espère que grâce à notre rencontre, nos auditeurs ont perçu la diversité des textes de votre livre, hein, que chacun de ces textes a son charme, son ambiance, et qu'ils sont unis par votre style et vos goûts exposés de façon poétique et ouverte. Nous avons parlé donc de Pastel, Bleu Nuit et autres mélanges, un livre écrit par Daniel Marc, notre invité, et publié chez AZ Art Atelier Édition. Merci Daniel Marc d'être venu passer ce moment avec
nous. Merci, c'est un plaisir.